Nutri Radio présente le Nutri Talk Gala. Pour la troisième année consécutive, le Nutri Talk Gala revient avec un moment unique mêlant expertise santé et divertissement. Cette année, un plateau d'experts exceptionnels pour mieux comprendre les hormones, le métabolisme et la longévité. Réginald Allouche, médecin, chercheur dans le domaine de la prévention du diabète et du surpoids. Et Philippe Gérard, directeur de la recherche à l'INRAE, spécialiste du microbiote intestinal et du métabolisme. Référence scientifique internationale sur Akkermansia. Programme complet. Intervenants et renseignements sur NutriTalkGala.fr. Cette émission vous est présentée par Nutrilogics, laboratoire engagé auprès des professionnels de santé. Nutrilogics offre des solutions naturelles, innovantes et durables pour que chacun vive en pleine santé et en équilibre dans son environnement.
Santé 360, Christian Boyer sur Nutri Radio.
Bonjour Christian!
Salut Fabrice.
Ça va?
Tout va bien.
Quelle aisance, quel orateur ce Christian Boyer. J'ai des retours excellents sans vous. Hein. Vous le savez?
Non, je sais pas, non, je le sais.
Oui, bah non, je vous le dis. Non, c'est vrai que j'évite en général de dire aux intervenants que j'ai des bons retours. Parce que après, bon, parfois, tout de suite, l'enjeu devient financier. Donc je ne dis rien, je me tais. Mais en tout cas, on est ravis de vous avoir chaque jeudi sur Nutri Radio. Si vous êtes sur le live entre 17h et 18h pour bien terminer la journée. Et puis si vous êtes en podcast, c'est quand vous voulez, mais on n'est pas moins ravis. Vous voyez, c'est le même effet, quoique même certaines personnes me disent « Sans la musique, c'est mieux, parce que comme ça, je suis tout le sujet. » Mais voilà, il y en a pour tous les goûts, le live, le podcast, c'est consommation à la demande. Et en plus, c'est gratuit, ça vous est offert. Et d'ailleurs, si ça vous est offert, c'est parce qu'on a aussi des partenaires qui nous soutiennent dans cette démarche de démocratisation de ces savoirs de santé, de prévention, santé intégrative. Et notre partenaire, c'est le laboratoire Nutrilogics sur cette émission qu'on remercie, spécialisé dans la fabrication et distribution de compléments alimentaires de qualité dont les synergies sont travaillées avec des professionnels, des cliniciens, des médecins, des biologistes pour vous permettre d'avoir des ingrédients efficace et surtout une action. Bah oui, quand on prend des compléments alimentaires, on a envie que derrière, ça puisse quand même se mesurer. On le voit, le consommateur est de plus en plus exigeant là-dessus, car il en sait de plus en plus, notamment grâce à ses émissions de Nutri Radio. Vous voyez, la boucle est bouclée, mais notamment, pas que, hein, y en a d'autres. Tout le monde font, il y a des webinaires, des conférences, hein, ces thématiques de santé, ça devient de plus en plus...
Des congrès,
il y a le Nutrito Gala, il y a le gala de danse de la copine de Christian Boyer, elle sera sur scène, elle parlera aussi de ces thématiques, parce que maintenant tout est interconnecté, n'est-ce pas mon cher Christian? J'en profite pour vous dire que le Nutrito Gala c'est le 13 juin prochain. Allons directement maintenant dans le vif du sujet, c'est la thyroïde, on va parler de la thyroïde, thyroïde, bactéries et virus, un dialogue oublié selon vous mon cher Christian, parce qu'il se pourrait... que des personnes avec des différents types de troubles digestifs, notamment pourraient avoir des soucis de thyroïde, pourraient donc avoir un lien.
Oui, ça c'est. Ben, je pense que maintenant on a plus trop de doutes quand on regarde le rôle de la thyroïde. Alors, cette thyroïde, on l'appelle un peu le chef d'orchestre finalement. C'est une glande qui, via la production d'hormones thyroïdiennes, principalement de la T4, qui se convertit ensuite en T3, va influencer absolument à peu près tous les systèmes. Ça va du système nerveux au système digestif, au système reproducteur. Donc, c'est vraiment une glande et qui est essentielle, qui joue sur quasiment toutes les fonctions de notre organisme. Pas que sur le métabolisme, pas que sur la production de chaleur, mais vraiment, voilà, elle a un impact en tout cas sur le digestif qui est également majeur. On sait qu'elle va jouer sur les fonctions aussi de digestion, sur ce qu'on appelle la motilité intestinale, donc le bon fonctionnement notamment du nettoyage de l'intestin grêle. Elle joue aussi sur le péristaltisme. Alors ça, du coup, c'est sur les contractions qui font avancer le bol alimentaire. C'est pour ça que souvent les personnes en hypothyroïdie sont constipées, puisque tout est au ralenti. Donc, clairement, quand on regarde le rôle de cette thyroïde et le rôle des hormones thyroïdiennes, on a vite compris en fait tout le lien qu'il peut avoir avec le système digestif et pourquoi un dysfonctionnement au niveau de la thyroïde peut engendrer des troubles digestifs.
Eh oui, ben merci. Moi, je m'en dis vous l'avez dit, c'est plus un secret aujourd'hui. C'était un peu un secret pour moi, figurez-vous. Mais quand vous le dites comme ça, je comprends beaucoup mieux tous ces liens. Et alors, est-ce que les hormones, elles sont toutes reliées entre elles? Pardon, parce que j'ai peut-être une question qui n'a rien à voir avec le sujet du jour, mais thyroïde, testostérone, j'ai cru comprendre qu'il y avait un lien aussi.
Bien sûr, il y a un lien. Il y a un lien effectivement. On sait que la thyroïde aussi et le bon fonctionnement de la thyroïde et des bons niveaux d'hormones thyroïdiennes sont très importants pour, on va dire, les productions aussi d'hormones sexuelles. Les hormones thyroïdiennes vont notamment permettre une bonne production des œstrogènes, de la testostérone également. D'ailleurs, des dysfonctionnements thyroïdiens peuvent être une source aussi chez la femme, des fois, d'infertilité. S'il y a des gros soucis de thyroïde, en cas d'hypothyroïdie, on peut avoir carrément un arrêt des cycles, un arrêt des règles chez certaines femmes. Et c'est dû au fait qu'effectivement, il n'y a plus une bonne production d'hormones sexuelles. Il y a vraiment un rôle important, clair, sur les hormones sexuelles, qu'elles soient féminines ou masculines, donc œstrogène, testostérone, oui.
Bon voilà, c'était pas si nul que ça comme question. Merci beaucoup Christian de m'avoir fait donner un petit peu de crédit. Et est-ce que le microbiote intestinal, il peut influencer le fonctionnement de la thyroïde? Pas du tout.
Alors oui, ça c'est clair. On parle beaucoup notamment voilà des micronutriments. On dit pour que votre thyroïde fonctionne bien, il faut de l'iode. Bon, ça c'est normal, on comprend. T4, T3. 4 et 3, c'est le nombre d'atomes d'iode qu'il y a dans les hormones thyroïdiennes. Donc, on comprend déjà qu'effectivement, pour que la thyroïde fonctionne bien, il faut qu'il y ait tous les micronutriments nécessaires. Et ce n'est pas que l'iode, il faut aussi du magnésium, de la vitamine D, du sélénium. Enfin, la liste est très longue. Donc ça, on va dire que c'est des choses logiques qui sont connues. Tout le monde connaît le lien entre l'iode et la fabrication des hormones thyroïdiennes. Par contre, il y a aussi un autre lien, des fois, qu'on fait un petit peu moins ou qu'on connaît un petit peu moins, notamment probablement du grand public aussi, c'est en fait toute l'influence du microbiote intestinal sur le fonctionnement de cette thyroïde. Et là, bon, quand je vais parler microbiote intestinal, je vais surtout, on va dire, insister sur la partie bactérienne, puisque dans notre microbiote, on n'a pas que des bactéries, on a aussi de la flore fongique, aussi potentiellement des parasites. Il y a des virus. Les bactériophages, mais en tout cas, voilà, je vais un peu plus parler du rôle du microbiote bactérien, on va dire, sur la thyroïde. On sait que, notamment, on a découvert, il y a des études qui datent déjà des années 70, hein, donc c'est pas tout récent, mais on s'était rendu compte, en fait, que l'intestin était un peu une sorte de réservoir d'hormones thyroïdiennes, qui avait une sorte de poule d'hormones thyroïdiennes qui était disponible un peu à ce niveau-là. Et on sait qu'il y a, on a découvert déjà depuis un moment qu'il y avait certaines bactéries de microbiote intestinal, notamment une étude qui s'est intéressée à Escherichia coli. Et ces E. coli avaient cette capacité à retenir, à fixer les hormones thyroïdiennes. Elles avaient des sortes de protéines un peu spécialisées qui permettaient une rétention de ces hormones thyroïdiennes. Donc, on a découvert du coup qu'il y avait une sorte de poule dans le microbiote d'hormones thyroïdiennes qui existait. Après, les mécanismes exactement, comment ça fonctionne, pourquoi ces bactéries conservent ces hormones thyroïdiennes, quel est le mécanisme qui vont faire qu'elles vont les relarguer, à quel moment, quel type de stimulus provoque ce relargage, il y a des choses dont on ignore. Mais en tout cas, on sait qu'il y a un réel réservoir d'hormones thyroïdiennes au niveau du microbiote. On sait aussi que le microbiote a une influence sur la réabsorption des hormones thyroïdiennes, puisque un certain nombre d'hormones, dont les œstrogènes aussi, sont ensuite arrivent au niveau du foie, vont être notamment conjuguées puis éliminées, alors principalement au niveau de la bile. Et donc, du coup, il y a des bactéries qui ont des enzymes comme la bêta-glucuronidase qui sont capables de couper, en fait, de cliver ce groupement-là et de libérer les hormones thyroïdiennes. Un peu comme quand on veut jeter quelque chose, nous, on met ça dans un sac poubelle, on ferme le sac poubelle et on l'apporte directement à la grande poubelle dehors. Sauf que si, sur le passage, il y a quelqu'un qui vient déchirer le sac poubelle, ben, y a tous les déchets qui ressortent. Et là, c'est un petit peu pareil. Il y a une, une recirculation entéro-hépatique des hormones thyroïdiennes, donc une partie des hormones thyroïdiennes éliminées dans la bile vont pouvoir recirculer et revenir dans la circulation. Et pour ça, il y a un équilibre à avoir dans l'activité de certaines enzymes bactériennes, dont la bêta-glucuronidase, et il y a des bactéries qui vont avoir un rôle dans la gestion de la quantité d'hormones thyroïdiennes qui vont être réabsorbées. Donc, s'il y a quelque chose qui est perturbé au niveau du microbiote, on peut avoir une moins bonne activité, par exemple cette bêta-glucuronidase, ou trop forte, et ça modifie les cinétiques, la quantité d'hormones thyroïdiennes réabsorbées. Donc, ça, on va dire que c'est un point majeur. Donc, le microbiote est capable de conserver les hormones thyroïdiennes, d'être un pool de réserve, il est capable de jouer sur la réabsorption des hormones thyroïdiennes. Et aussi, le microbiote, on sait aujourd'hui qu'il y a un certain nombre de bactéries qui vont influencer l'absorption des cofacteurs, donc tous ces micronutriments comme l'iode, le fer, le zinc, etc. Et comme ce sont des nutriments essentiels aussi au bon fonctionnement thyroïdien, en fonction du microbiote, on peut avoir une amélioration ou une diminution de l'absorption de certains micronutriments. La qualité de notre microbiote joue directement sur l'absorption de nutriments essentiels à la thyroïde, mais pas que. Donc ça, c'est aussi un deuxième, on va dire, mécanisme par lequel le microbiote peut aller influencer le fonctionnement thyroïdien. Il y a des mécanismes aussi qui joue sur la barrière intestinale, puisqu'un bon microbiote en bonne santé va permettre d'avoir une bonne barrière intestinale, et une bonne barrière intestinale est nécessaire aussi pour la bonne absorption des composés, notamment des micronutriments. Et lorsque cette barrière n'est plus en bonne santé, on absorbe différemment, moins bien certains micronutriments, et lorsque cette barrière devient intestinale trop perméable, qui a un microbiote perturbé, qui crée de la micro-inflammation, de la perméabilité, on a un risque aussi de passage de molécules non désirées, d'antigènes, et notamment un qui est le LPS. Alors le LPS, c'est le lipopolysaccharide bactérien. C'est une molécule qu'on retrouve dans la paroi des bactéries gram-négatives, par exemple chez les protéobactéries. Et on n'aime pas trop que ce LPS pénètre dans le sang en quantité trop importante. Quand il y en a trop, d'ailleurs, on appelle ça l'endotoxémie, donc une sorte d'auto-intoxication. Donc, on peut être auto-intoxiqué, entre guillemets, par du LPS bactérien, notamment lorsque la muqueuse intestinale est trop perméable et que cette molécule passe dans le sang. Et le problème de ce LPS, c'est qu'il engendre derrière déjà de la micro-inflammation et il vient perturber le fonctionnement thyroïdien. Il y a plusieurs niveaux. Il va perturber la fabrication des hormones thyroïdiennes, il va perturber la sécrétion de TSH, il va perturber même l'action des hormones thyroïdiennes. Donc, c'est un réel perturbateur du fonctionnement thyroïdien. Et c'est clairement un mécanisme en lien avec le microbiote, puisque ce LPS est une molécule bactérienne qu'on retrouve dans les parois des bactéries gram moins, comme je l'ai dit.
Alors, après avoir vu les bactéries, on va se demander qu'est-ce qu'il en est des virus. Mais juste avant, on marque une toute petite pause.
Vous êtes passionné de santé, professionnel ou simplement acteur de votre bien-être? Découvrez Nutrilogix. Notre vision, être une référence en santé naturelle et innovante. Notre mission, offrir à chacun des solutions accessibles et durables pour vivre en pleine santé et en équilibre avec son environnement. Parce que la santé de demain se construit aujourd'hui. Nutrilogix, révolutionnons la santé.
Santé 360, Christian Boyer sur Nutri Radio.
La qualité du microbiote intestinal, eh oui. Et en tout cas, on voit avec vous à quel point c'est important, à quel point ça peut jouer notamment donc sur la thyroïde aujourd'hui. Thyroïde, bactéries, qualité du microbiote intestinal. Donc on a parlé justement des bactéries juste avant et l'impact que cela pouvait avoir sur les troubles thyroïdiens. Mais qu'est-ce qu'il en est des virus? Et par exemple, ce virus qui induit la mononucléose, le BV.
Oui, alors le BV, c'est vrai que ça c'est un virus dont on parle beaucoup, hein, parce que on sait aujourd'hui, d'une manière générale, on sait aujourd'hui que les virus peuvent être responsables de tout un tas de problématiques de santé.
Hein, on appelle ça l'Epstein-Barr, hein, c'est ça. Hein.
C'est ça, l'EBV, c'est l'Epstein-Barr virus. Donc, c'est un virus qui fait partie de la famille d'ailleurs des herpès virus. Alors, les herpès, notamment l'herpès labial, c'est dû à un autre type d'herpès virus, ce n'est pas l'EBV. Mais voilà, ça, c'est quelque chose qu'on peut voir et qui touche certaines personnes hein, qui ont notamment cette herpès labial, qui a tendance d'ailleurs à revenir souvent lors des petits coups de stress ou de baisse de l'immunité. On voit, j'ai de nouveau de l'herpès, ça revient comme ça de manière cyclique. Et ces virus, oui, c'est une réelle problématique. On l'a vu notamment avec le virus du SARS-CoV-2, donc qui donnait le Covid, et on a vu l'apparition d'une problématique qu'on a appelée le Covid long. Et voilà, ça, c'est un exemple d'un virus qui peut provoquer derrière d'autres problèmes, même parfois quand. Quand on pense avoir passé la phase, on va dire, aiguë d'infection, puisque le BV, bon, c'est connu, puisque ça peut donner la mononucléose. Et donc, du coup, ce virus EBV, y a énormément de personnes qui sont porteurs de l'EBV, puisqu'il suffit de l'avoir eu une fois, ensuite on le garde à vie. Hein. Il reste en dormance, il peut parfois aussi se réactiver. C'est pas parce qu'on a eu la mononucléose il y a 20 ans que c'est bon, tout est réglé. Ben non, ce virus est toujours en dormance et on sait qu'il peut se réactiver. Hein. C'est des choses qu'on a vues.
C'est la belle au bois dormant. Il se réveille avec un baiser.
C'est ça. Mais le baiser n'est pas forcément agréable dans ce cas-là. C'est là où est la petite différence.
Le baiser de la mort. Oui, non, évidemment.
Et donc, ce virus EBV, on sait aujourd'hui que c'est un des virus. On va dire parmi les plus impliqués dans l'auto-immunité en général. Donc ça, c'est peut-être un petit peu moins valable depuis qu'il y a eu le SARS-CoV-2, mais on va dire si on met de côté ce virus du SARS-CoV-2, le BV, c'est clairement un des virus les plus impliqués dans l'auto-immunité. On sait que le BV peut être impliqué aussi dans certains cancers. Donc après, bon, faut rassurer, faut pas faire peur aux gens s'ils ont déjà eu la mononucléose, les gens qui ont le BV, qui ont eu la mononucléose, vont pas développer des cancers, bien évidemment. Mais c'est pour vous dire que ça peut ces tout petits virus peuvent être responsables quand même de problématiques qui ne sont pas anodines. Et le BV, on a un certain nombre d'articles intéressants, donc on ne connaît encore pas tout. Donc ça reste quand même beaucoup sous forme d'hypothèses, mais assez fortes pour les évoquer. Et notamment, c'est le rôle de l'EBV qu'il pourrait avoir dans le développement de maladies auto-immunes de la thyroïde, notamment de la thyroïdite d'Hashimoto. D'accord, qui est une maladie auto-immune qui va provoquer une hypothyroïdie, on a une destruction de la glande thyroïde. Et il semblerait effectivement que ce virus puisse être, on va dire, un co-déclencheur, un cofacteur déclenchant ou même un amplificateur de la Hashimoto. Il y a une étude intéressante qui avait été publiée, qui avait montré notamment que chez les malades d'Hashimoto, chez plus de 80% des malades, on détectait des ARN spécifiques d'EBV, en fait, qu'on appelait des EBER, EBER. On retrouvait beaucoup d'ARN spécifiques à EBV dans les cellules thyroïdiennes. Donc là, ça a été un article qui s'est intéressé. Il dit, tiens, c'est quand même intéressant de voir qu'on retrouve chez plus de 80% d'Hashimoto ces ARN spécifiques de BV. Tiens, c'est ce qui n'aurait pas un lien avec cette pathologie. Et donc, il y a des hypothèses qui sont faites, notamment que parfois l'apparition de la thyroïdite auto-immune pourrait notamment commencer, ou ça pourrait être un cofacteur déclenchant, cet EBV. Et ça pourrait commencer en fait par une infection latente hein, d'EBV dans les cellules folliculaires de la thyroïde. Et donc cette infection latente pourrait derrière déclencher des phénomènes ou aggraver des phénomènes d'auto-immunité. Donc ça c'est quelque chose qui est intéressant. Après il y a eu d'autres publications qui ont montré qu'il y avait d'autres infections virales qui pouvaient aussi être en lien avec la maladie d'Hashimoto. On a détecté aussi dans la thyroïde de patients atteintes de thyroïdite d'Hashimoto des composants de plusieurs virus, comme le virus d'hépatite C, du parvovirus humain, du virus de l'herpès, du virus Coxsackie. Donc, on se rend compte en fait que, d'une manière générale, les virus pourraient être responsables du développement de certaines problématiques d'auto-immunité. Dans les mécanismes... dans les mécanismes. Il y en a plusieurs qui sont mis en avant. On pense des fois aussi que le fait qu'on retrouve certaines cellules infectées par ces virus, qui pourraient avoir induction de ce qu'on appelle de lymphocyte T autoréactif, c'est-à-dire que un lymphocyte T qui viendrait s'attaquer à ces cellules infectées avec un virus pourrait ensuite, on va dire, se déréguler un peu et engendrer une sorte d'activation aussi d'autres lymphocytes T autour et qui crée une sorte de schéma d'auto-amplification qui pourrait ensuite provoquer, notamment au niveau de la thyroïde, une inflammation intrathyroïdienne. Donc, il y a des récepteurs T, des lymphocytes T qui vont être activés, puis ils en activent d'autres, ils deviennent autoréactifs et ils se mettent ensuite à détruire les cellules thyroïdiennes.
Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Quelle est la stratégie chez une personne en hypothyroïdie et qui a des problèmes intestinaux? Quel trouble est prioritaire?
Alors, d'une manière générale, sur les personnes qui ont des problématiques de thyroïde avec des troubles intestinaux, c'est comme on sait que la thyroïde a de toute manière un impact sur la sphère digestive, c'est clair qu'on ne peut pas imaginer que quelqu'un qui a des troubles intestinaux et des soucis de thyroïde puisse se sortir facilement et définitivement des troubles intestinaux sans qu'il y ait une prise en charge de ces problématiques thyroïdiennes, ça c'est clair. Et ben, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, on sait aussi qu'il y a des problématiques comme des infections virales, des réactivations virales, des problématiques de microbiote qui peuvent impacter la thyroïde. Donc, c'est toujours des choses qui sont intéressantes à chercher quand quelqu'un a une hypothyroïdie, notamment si c'est auto-immun, s'il y a une maladie d'Hashimoto, c'est vraiment important de s'intéresser et au microbiote et à rechercher si la personne n'a pas eu par le passé une mononucléose ou autre chose. Est-ce qu'il n'y a pas à l'heure actuelle une infection virale, une réactivation virale? Donc, d'une manière générale, s'il y a des maladies d'Hashimoto, toujours penser à l'implication de certains virus et aussi au microbiote. Et dans le cas où on a un microbiote perturbé, une forte dysbiose intestinale et des problèmes de thyroïde, c'est vraiment les deux axes à prendre en charge, puisqu'il y a une sorte d'auto-entretien de la problématique. Si la thyroïde ne fonctionne pas bien, on a notamment une moins bonne sécrétion d'acide chlorhydrique. Les hormones thyroïdiennes vont favoriser la sécrétion d'acide chlorhydrique avec l'histamine aussi, parce que l'histamine, c'est un médiateur qui est produit, qui va permettre notamment la sécrétion via les récepteurs H2 de l'acide chlorhydrique. Mais en fait, les hormones thyroïdiennes facilitent l'action de l'histamine sur les récepteurs H2, ce qui fait que les hormones thyroïdiennes sont hyper importantes pour la sécrétion d'acide chlorhydrique. Donc, si on est en hypothyroïdie, il y a une moins bonne sécrétion d'acide chlorhydrique, il y a aussi une moins bonne sécrétion des enzymes pancréatiques, des enzymes qui vont nous aider à digérer les aliments, et on a aussi une modification un peu de la qualité de la bile et de la sécrétion de la bile. On a des liens d'ailleurs entre des lithiases biliaires, des problèmes biliaires et l'hypothyroïdie. Donc, si on sait que la thyroïde elle impacte le système digestif, l'estomac, le côté enzyme pancréatique plus le côté biliaire, clairement, s'il n'y a pas aussi cette problématique prise en charge, on ne peut pas derrière avoir une bonne qualité de digestion, on ne peut pas avoir suffisamment de bile, suffisamment d'acidité. Et si on n'a pas suffisamment de bile, d'acidité, etc., ça peut déclencher des problèmes digestifs. On a plus de risques aussi de développer des SIBO, notamment. D'ailleurs, il y a des liens et des études qui ont montré que chez les gens qui ont un SIBO, on trouve une prévalence plus importante d'anticorps antithyroïdiens et de maladies d'Hashimoto de manière générale. Donc, c'est vraiment... on est sur une communication, je dirais presque, à double sens. Le microbiote qui est perturbé va... perturber la thyroïde, la thyroïde qui est perturbée va perturber la bonne digestion et donc du coup le microbiote. Donc on est vraiment sur une sorte de cercle vicieux. C'est pour ça, lorsqu'il y a vraiment ces deux problématiques, elles sont à prendre en charge de la même manière. Les deux ont la même importance dans la logique de prise en charge, dans la construction du protocole.
Tout ce qui est toutes ces dépendances, interdépendances, tous ces mécanismes, il faut vraiment le savoir et c'est très intéressant, hein, ces points de vue que vous nous donnez, parce que là on se dit ok, d'accord, Et d'où l'importance aussi d'être suivi par des médecins fonctionnels ou des professionnels de santé qui ont une vision intégrative et donc qui vont travailler avec d'autres collaborateurs pour aller faire les bons tests, pour vraiment trouver le bon cause. C'est ça, on va chercher la cause plutôt que juste essayer c'est bien de soigner, hein, mais si on peut éviter que ça ne se reproduise et vraiment traiter en expliquant pourquoi ça bloque là, parce que c'est interdépendant, c'est lié à tout. Il y a beaucoup, beaucoup de facteurs qui entrent en jeu et c'est bien de se faire accompagner. Et ces émissions, j'espère, servent aussi à cela, chers auditeurs. N'hésitez pas à les partager avec vos professionnels de santé, si vous-même vous êtes professionnel de santé, avec vos confrères, avec aussi d'autres personnes. Et si vous voulez réagir, vous nous envoyez un petit message sur le site de nutriradio.fr. Il y a le formulaire de contact. Vous précisez le nom de l'émission, hein, Santé 360. Et vous pouvez même interagir en direct avec Christian Boyer. On est très, très ouvert aux discussions et aux apports de gens qui s'y connaissent, bien évidemment. Merci à vous, mon cher Christian.
Merci Fabrice, avec plaisir.
On va se retrouver très bientôt. Restez avec nous si vous êtes sur le live de Nutri Radio parce que c'est le retour de la musique tout de suite. Et sinon, cette émission en podcast sur nutriradio.fr.
Santé 360, Christian Boyer sur Nutri Radio.